VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 20 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, manifestation au Nigeria pour commémorer la répression au péage de Lekki. Des milliers de jeunes protestaient contre les brutalités policières. Le Conseil de sécurité en tournée dans le Sahel ce week-end. Le Mali et le Niger seront les principales escales des 15. Éthiopie, nouvelle attaque aérienne des forces gouvernementales contre Mekele, la capitale du Tigré. Une journée meurtrière en Syrie, un attentat a fait 14 morts à Damas et les bombardements de l'armée contre une zone rebelle ont causé la mort de 13 personnes. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute écho et des sports, mais tout d'abord le journal. De nombreux Nigériens ont rendu hommage un an après aux victimes de la répression du mouvement contre les violences policières à Lagos et à Abuja. Claire Morin-Gibou.
À Abuja, une centaine de personnes se sont rassemblées dans le calme. À Lagos, une centaine de voitures ont traversé dans la matinée le péage de Lekki, lieu emblématique de la contestation. L'armée et la police avaient ouvert le feu le 20 octobre 2020, causant la mort d'au moins 10 personnes. Pour cet anniversaire, les manifestants ont scandé « Qui a ordonné la tuerie ?» et « Nous voulons la justice ». Ils ont ensuite été dispersés par la police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Au moins 6 personnes ont été arrêtées. Depuis plusieurs semaines, les autorités avaient mis en garde contre de nouvelles manifestations, affirmant que celles de l'an dernier avaient dégénéré en émeutes et pillages. Lors d'une conférence de presse à Abuja, le gouvernement a réaffirmé aujourd'hui que les militaires n'avaient pas tiré sur les manifestants au péage de Lekki, parlant de massacre fantôme.
Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly a indiqué aujourd'hui que l'ancien président Laurent Gbagbo restait poursuivi par la justice ivoirienne. En janvier 2018, Laurent Gbagbo avait été condamné, ainsi que 3 co-accusés, à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale. Acquitté fin mars par la CPI, M. Gbagbo est rentré le 17 juin en Côte d'Ivoire. Il a lancé ce week-end le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, marquant son retour sur la scène politique nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU sera en visite ce week-end au Mali et au Niger pour encourager Bamako à revenir à un pouvoir civil après 2 coups d'État militaire en 9 mois dans une région marquée par une forte poussée djihadiste. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Pour les 15 membres du Conseil de sécurité, aller dans un pays dirigé par un militaire n'équivaut pas à cautionner les coups d'État au Mali, assurent les diplomates. Ils vont dans la région soutenir les organisations régionales comme la CDAO et insister sur les respects des délais électoraux, précise l'un d'eux. Selon l'ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies, Abdou Abari, la région du Sahel fait face à de nombreux défis, dont la lutte contre le terrorisme, l'impact du changement climatique et la bonne gouvernance. Il co-dirige ce déplacement avec son homologue français Nicolas de Rivière, qui ajoute que la situation au Sahel demeure très fragile, évoquant la stabilisation du Mali et la nécessité de discuter de la façon de soutenir les efforts des pays du G5 Sahel pour assurer leur sécurité. Ce voyage survient alors que les relations entre la junte malienne et la France sont au plus bas.
Le parquet rwandais a annoncé aujourd'hui avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Le ministère public a fait appel de l'ensemble des décisions prononcées en septembre contre lui et ses 20 co-prévenus, a précisé le porte-parole du parquet, Faustin Nkuzi. Monsieur Rusesabagina a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, le FLN, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. L'armée éthiopienne a lancé ce mercredi une nouvelle attaque aérienne contre Mekele, la capitale de la région du Tigré. Il s'agit du 2e raid aérien cette semaine, marquant une nouvelle escalade dans ce conflit qui dure depuis près d'un an. Abdourahman Dia.
Contrairement aux frappes de lundi, le gouvernement éthiopien a rapidement confirmé l'information d'abord donnée par des sources humanitaires et un résident de Mekele. Selon le chef du service de communication du gouvernement, Legesse Tulu, Le raid a visé des installations transformées par les rebelles tigréens en centres de fabrication d'armes et de réparation pour leur matériel militaire. Aucun bilan humain n'était immédiatement disponible à la suite de ce bombardement aérien qui a notamment détruit un site industriel, a précisé un résident de Mekelle. C'était très lourd et l'avion était très proche. L'ensemble du site a brûlé. On ne sait pas s'il y a des victimes, mais toute l'entreprise est partie en fumée, a-t-il ajouté. Deux jours plus tôt, l'armée éthiopienne avait mené deux raids contre des positions du Front de libération du peuple du Tigré à Mekelle. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 3 enfants ont été tués lors de ces premières frappes. Depuis 2 semaines, diverses sources rapportent les signes d'une nouvelle offensive du régime du premier ministre Abiy Ahmed contre le TPLF.
Soudan du Sud, la société civile en danger, selon la commission de l'ONU. Dans un communiqué, la commission des droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud pointe du doigt les menaces et les actes de harcèlement et d'intimidation dont font l'objet d'éminents défenseurs des droits humains, journalistes et acteurs de la société civile. Des menaces crédibles contre leur vie exercées par les services de sécurité nationale ont poussé certains d'entre eux à fuir le pays, indique la commission de l'ONU. Le principal parti d'opposition au Zimbabwe a dénoncé mercredi une nouvelle attaque contre son leader Nelson Chamisa, sorti indemne après avoir été visé la veille par des tirs alors qu'il se trouvait dans sa voiture après un meeting politique. Une embuscade a été montée, des coups de feu ont été tirés et une balle est venue se loger dans le siège arrière gauche, a déclaré Tendai Biti, vice-président de l'Alliance du Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC, pendant une conférence de presse à Harare. Les tensions politiques ont augmenté au Zimbabwe avant les élections qui désigneront un nouveau président pour le pays dans 2 ans. Nelson Chamisa devrait s'opposer pour la seconde fois à l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. 19 Égyptiens ont été tués mercredi quand un camion a percuté leur minibus sur la rocade du quai. Le chauffeur du minibus et ses 18 passagers n'ont pas survécu. L'accident a eu lieu sur la voie rapide dans l'ouest de la capitale la plus peuplée du monde arabe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 14 personnes ont été tuées mercredi dans un attentat contre un bus militaire à Damas, l'attaque la plus meurtrière dans la capitale depuis plus de 4 ans. Des bombardements du régime sur les zones rebelles ont aussi fait 13 morts, les précisions de John Needham.
Vers 6h45 ce matin, heure locale, un bus militaire a été la cible d'une attaque terroriste lors de son passage près d'un pont stratégique à Damas, a indiqué l'agence de presse officielle Sana, faisant état de 14 morts et plusieurs blessés. Une source militaire a indiqué que 2 engins explosifs étaient attachés au véhicule et qu'un 3e tombé du bus après l'explosion a été démantelé. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les forces gouvernementales ont bombardé 1 heure plus tard la province d'Idlib, dernier bastion djihadiste et rebelle dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 13 morts, des civils pour la plupart. Cette attaque est la plus meurtrière dans la capitale syrienne depuis un attentat revendiqué par le groupe État islamique en 2017 qui avait fait au moins 30 morts.
La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé aujourd'hui avoir tué plus de 82 rebelles houthis dans de nouveaux raids aériens autour de la ville stratégique de Marib, théâtre d'une bataille qui a redoublé d'intensité ces dernières semaines. Dernier bastion du gouvernement dans le nord du Yémen, Marib est depuis février au cœur d'une bataille sanglante qui s'est intensifiée ces derniers jours avec les avancées des rebelles. Ici aux États-Unis, Nicolas Cruz, auteur d'une tuerie dans un lycée en Floride en 2018, s'est excusé mercredi face aux familles de ses victimes massées dans un tribunal près de Miami après avoir plaidé coupable de ses 17 meurtres commis avec un fusil d'assaut. Le jeune homme de 23 ans avait 19 ans pendant qu'il a commis l'un des pires massacres commis en milieu scolaire aux États-Unis. L'accusé devra maintenant être présenté devant un jury pour que sa peine soit fixée. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé aujourd'hui les membres de l'Alliance à surmonter leurs divergences et à éviter de s'affronter au sujet du retrait d'Afghanistan. Les divergences d'opinion au sujet du retrait d'Afghanistan ne doivent pas provoquer de dissension entre les États-Unis et les Européens, a-t-il plaidé, à la veille d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'Alliance Atlantique, la première organisée depuis la fin de ce retrait le 31 août. Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas à Glasgow pour participer à la 26e conférence de l'ONU sur le climat, la COP26, qui doit se tenir du 31 octobre au 12 novembre, a annoncé mercredi le Kremlin. Le porte-parole du palais présidentiel Dmitri Peskov a déclaré que Vladimir Poutine participerait à distance à la conférence. L'absence du président russe constitue un nouveau coup dur pour la COP26, alors que le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien ne sont pas certains non plus d'y participer. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lydon.
La dette des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est restée relativement stable au deuxième trimestre 2021. Selon Financial Afrique, le Cameroun porte le maillot jaune avec, à fin juin, une dette de 10 687 milliards de francs CFA. Dans la même période, l'encours de la dette publique du Gabon était estimé à 6 539 milliards de francs CFA. Air Madagascar, placé en redressement judiciaire, cède la place à Madagascar Airlines. La nouvelle compagnie aérienne est le résultat de la fusion entre la compagnie nationale et Chad Aria. Selon Financial Afrique, la nouvelle compagnie va assurer la liaison Tana-Paris à partir du 6 novembre 2021 grâce à un Boeing 787 et un Airbus A340 en cours d'immatriculation va assurer la liaison vers la Chine. Crédit Suisse va payer près de 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques. C'est pour solder des poursuites liées à des levées de fonds organisées au nom d'entreprises et d'États au Mozambique. Les transactions en question ont été utilisées pour verser des pots de vin à d'ex-banquiers de Crédit Suisse et à des fonctionnaires, alors même qu'elles étaient présentées aux investisseurs comme un moyen de financer le développement de la pêche au thon au Mozambique. C'est du moins ce qu'a détaillé l'autorité américaine des marchés financiers.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. La nouvelle saison NBA a débuté la nuit dernière. Milwaukee, porté par Gianni Antetokounmpo, a battu Brooklyn 127-104, entraînant son titre de champion NBA en ouverture de la saison. Le grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo s'est fendu de 32 points, 14 rebonds, 7 passes décisives et 2 contre. En face, Kevin Durant a été prolifique, 32 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 2 contre, mais un peu trop seul. L'autre affiche de la soirée a vu les Lakers de LeBron James, pourtant à la hauteur, 34 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, s'incliner face à Golden State 121-114. Ce revers est le 7e de rang en incluant les 6 consécutifs en amicaux de pré-saison. Toujours en NBA, le psychodrame Ben Simmons continue à Philadelphie. Le meneur a été suspendu pour un match après son exclusion de l'entraînement mardi dû à un comportement préjudiciable à l'équipe, a annoncé son club. L'Australien de 25 ans manquera ainsi l'ouverture de la saison des Sixers ce soir chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Selon plusieurs médias présents lors de la séance d'entraînement, Simmons a affiché un total désintérêt restant esselé, ballon en main, en train de dribbler, refusant ensuite de prendre part au programme du jour. Une prise de bec a suivi avec le coach Doc Rivers, qui l'a alors renvoyé au vestiaire. Football, les matchs de la 3e journée de la Ligue des champions se poursuivent ce soir en Europe. Entre autres rencontres, Manchester United reçoit l'Atalanta Bergame. Le Séville FC est contraint de réagir sur le terrain de Lille pour lancer sa saison européenne. Le RB Salzbourg accueille Wolfsburg. La Juventus se déplace à Saint-Pétersbourg. Chelsea devrait pouvoir soigner sa différence de but face à la lanterne rouge de ce groupe H, les modestes Suédois de Malmö. Hier, Lionel Messi a réussi un doublé pour permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer 3-2 contre Leipzig. Avant son exclusion en seconde mi-temps, Antoine Griezmann s'est aussi illustré avec un doublé pour l'Atlético en réponse à celui de Mohamed Salah pour Liverpool. Mais c'est bien l'Égyptien qui est sorti vainqueur du choc du groupe B, 3-2. Salah marque ainsi pour un 9e match consécutif, toutes compétitions confondues. C'est la première fois qu'un joueur des Reds parvient à réaliser pareille statistique. La soirée a aussi été marquée par d'autres doublés, ceux de Vinicius Junior du Real Madrid. de Riyad Mahrez, l'Algérien de Manchester City. L'attaquant ivoirien Sébastien Haller a confirmé sa position de meilleur buteur cette saison en inscrivant le dernier but de la large victoire de l'Ajax contre Dortmund 4-0.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, il y a un an, jour pour jour, les manifestations NSAS contre les abus d'une unité spéciale de la police ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Face à la pression populaire, les autorités avaient démantelé l'unité et promis de réformer la police, mais la jeunesse, peu convaincue par les promesses du gouvernement, a continué sa contestation. Les réactions des Nigérians dans ce reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
En octobre 2020, plusieurs milliers de jeunes Nigérians sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour demander la dissolution d'une unité spéciale de la police connue sous le nom de SAS. Elle avait été mise sur pied pour lutter contre les vols à main armée. Les manifestants réclamaient la fin des brutalités policières de l'unité SAS, accusées de meurtres, rackets et arrestations arbitraires. Un an après, quel bilan ? Faites-moi, Didier, dirige le Centre pour la transparence et la bonne gouvernance.
Malheureusement, l'attitude des agents de la police nigériane envers les populations n'a pas changé. Nous voyons toujours des cas de brutalité policière, des cas d'intimidation des citoyens dans tout le pays. Malgré aussi la dissolution de SARS, nous voyons toujours certains de leurs bureaux en pleine opération.
Les autorités nigériennes avaient constitué des commissions dans presque tous les États touchés par ces manifestations pour enquêter sur les abus des agences SAS contre les populations, l'une des demandes des jeunes manifestants. Le président du groupe des Nigériens concernés, Deji Adeyanju, ne cache pas sa déception.
Toutes les commissions, exception faite à celle de Lagos qui a effectué 10% de son travail, toutes les autres n'ont pas fonctionné. Celle d'Abuja a été suspendue. C'est lorsqu'ils ont appris que nous allons manifester pour marquer cette journée qu'ils ont repris les travaux. Donc vous comprenez le manque de sincérité du gouvernement. L'attitude du président ne montre pas aussi qu'il est déterminé à faire des réformes de la police.
Le 20 octobre 2020, les manifs ont pris une tournure meurtrière lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants au péage de Lekki, à Lagos. Le gouvernement a réaffirmé mercredi que les militaires n'ont pas tiré sur les manifestants et parle de massacre fantôme. Amnesty International a aussi réaffirmé qu'au moins 12 manifestants ont été tués. Pour Hamza Laval, un activiste, les demandes des jeunes sont jusqu'ici restées lettres mortes.
En première demande, former ces gens, les équiper, leur donner des bons salaires afin qu'ils soient fiers de leur travail. Donc SARS, ou bien la nouvelle unité qui a remplacé SARS, c'est toujours la même chose.
Dans les rues de la capitale fédérale Abuja, les habitants réagissent.
Ils ont un peu changé la manière avec laquelle ils conduisaient leurs opérations. Ils sont devenus un peu plus conscients maintenant. Des cas de brutalité ont diminué et l'absence de SARS dans les rues a un impact sur les gens.
Pour marquer cet anniversaire, la police a interdit tout rassemblement craignant une escalade de la situation. À Lagos, la capitale économique, la police a dispersé à l'aide des gaz lacrymogènes des jeunes qui ont tenté d'organiser une procession au péage de Lekki. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Au Burkina Faso, le FESPACO a débuté depuis samedi dernier et se poursuit jusqu'à samedi prochain. La capitale burkinabé vibre au rythme du cinéma africain. Plusieurs centaines de films seront projetés. Cependant, l'engouement autour de l'événement reste mitigé à cause de la situation sanitaire, mais aussi de l'insécurité que vit le pays depuis des années. Lamine Traoré est notre correspondant à Ouagadougou.
À Ouagadougou, l'heure est à la célébration du cinéma africain. Plusieurs activités se tiennent lors de cette 27e édition du plus grand festival de cinéma en Afrique. Des projections, des colloques, une rue marchande, un marché international et bien d'autres. Cependant, cette année, le festival suscite peu d'engouement au sein du public et ce, pour diverses raisons. l'insécurité, le coronavirus. Bertil est une Ouagalaise.
Les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore allée au FESPACO, et cela s'explique par le fait qu'il y a trop de monde actuellement au FESPACO sur les trois sites que, dont j'ai eu à faire un tour. Je ne suis pas rentrée, j'étais de passage et j'ai vu le monde qui est là, la queue qu'on doit faire pour accéder même au lieu. Donc, ce n'est déjà pas motivant et vu l'insécurité, le contexte sanitaire, faire la queue, il n'y a pas de mesures barrières et les gens sont attroupés pour pouvoir rentrer sur les lieux même en question. Donc cela même ne m'a même pas inspiré pour partir payer mon argent de surcroît pour rentrer visiter un trou où le monde et rien n'est contrôlé au fait. L'insécurité peut surgir à tout moment. Donc.
Abdul Karim Ouedraogo est commerçant.
C'est le temps. Mm-hmm. Bon, et puis l'inspiration de FESPACO ne me touche pas comme ça. Tu as bien devancé. Mm-hmm. C'est à cause de la sécurité. Donc j'ai peur. Vraiment aussi ça fait peur. Harry, ça fait tant de Burkina Faso avec le terrorisme, là, c'est pas bon.
Aline Taouedraogo, une journaliste burkinabé.
Je ne suis pas allée au FESPACO parce que j'ai beaucoup d'engagements professionnels ces temps-ci. Malheureusement, mon programme, mes horaires n'ont pas été aménagés au boulot pour me permettre d'y aller. Voilà, donc c'est simplement la raison pour laquelle je n'y ai pas été. Sinon, j'aurais bien voulu y aller quand même. Corona, insécurité, non, ce ne sont pas vraiment les motivations pour lesquelles je ne suis pas allée parce que toujours est-il qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que les festivaliers soient en sécurité et puis le port de masque est de rigueur, donc je crois que...
Cette dame fait partie des rares personnes rencontrées à se rendre à une activité du FESPACO. Ange Tapsoba est réalisatrice dans une télévision privée.
J'ai été au FESPACO, je suis allée voir des films. On remarque nettement qu'il y a moins d'affluence que les autres années au niveau des salles et même au niveau de la rue marchande. Bon, moi je pense que les mesures ont été prises hein, avec le port du cache-nez et la désinfection des mains. Il y avait un service de santé aussi qui était là à la porte. Depuis qu'ils ont annoncé le FESPACO, on voit déjà comment les hommes de tenue s'arrangent dans la ville. Dans tous les carrefours, il y a au moins 4 à 5 policiers. Au FESPACO, la sécurité est encore plus renforcée. Il y a les fouilles, ils sillonnent les coins. Ils voient, bon, moi je pense pas qu'il peut y avoir attaque en ce moment-là.
Une chose est sûre, le FESPACO 2021 suscite moins d'engouement. Le FESPACO qui a l'habitude d'accueillir quelques 200 000 festivaliers se tient dans un double contexte difficile, marqué par le coronavirus, mais aussi l'insécurité, à travers des attentats terroristes qui se poursuivent, même le temps du festival. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le cinéma africain, ses handicaps et ses perspectives. La 27e édition du FESPACO se tient à Ouagadougou. Le plus grand rendez-vous du cinéma sur le continent donne l'occasion aux professionnels du secteur de se rencontrer, mais aussi de présenter leurs œuvres et de guetter les opportunités au moment où de grandes maisons de production audiovisuelle comme Netflix et Canal+ jettent leur dévolu sur le cinéma africain. Quels sont les défis, mais aussi les opportunités pour le 7e art sur le continent dans un contexte de mutation digitale? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
De nombreux Kenyans, principalement des femmes, qui se sont rendus au Moyen-Orient pour travailler, disent avoir subi des abus de la part de leurs employeurs. L'organisation Art Kenya, qui lutte contre la traite des êtres humains, a facilité le retour de plus de 700 survivants du travail forcé depuis 2010. Un reportage de Brenda Molinia à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
S. Murunga, qui avait travaillé au Moyen-Orient, a ouvert un petit magasin il y a 6 mois dans la périphérie de Nairobi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait quitté son pays en 2019 pour travailler en Arabie Saoudite, destination populaire pour ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi. Ce qu'elle a vécu là-bas ne correspondait en rien à ce qu'on lui avait promis avant son départ.
Le patron est venu et m'a dit que je devrais faire chaque corvée puisque j'avais accepté de venir dans son pays. Il a dit que je n'aurais pas le droit de me plaindre car il avait payé très cher pour m'acheter. J'étais donc leur propriété.
Madame Murunga a subi des violences psychologiques et physiques pendant ses 2 années de service en Arabie Saoudite. Elle a été secourue par l'organisation Heart Kenya, qui accueille des survivants du travail forcé et leur offre une formation et un suivi pour les aider à reconstruire leur vie. Merci à Tieno, responsable de la sensibilisation de l'organisation, explique que les survivants, dont 80% sont des femmes, souffrent de traumatismes.
Lorsqu'un survivant vient à nous, il est bouleversé. Certains d'entre eux semblent maltraités. Ils ne savent pas quoi faire et par où commencer. Ils n'ont pas de maison et ne veulent pas rentrer chez eux parce que tout le monde sait qu'ils sont partis à l'étranger. Donc on s'attend à ce qu'ils reviennent avec quelque chose.
Le syndicat des travailleurs domestiques et assimilés du Kenya conseille à ceux qui cherchent du travail comme main-d'œuvre non qualifiée à l'étranger d'être vigilants. Albert Njeru, secrétaire général du CUDEIA.
Seek for proper information.
Recherchez des informations appropriées, consultez largement et pour pouvoir faire les choses correctement, n'allez pas là où vous pouvez voir des points noirs.
Fès Murunga se dit reconnaissante de pouvoir vivre loin des abus qu'elle a subis à l'étranger grâce à Heart Kenya, qui apporte un soutien aux victimes d'exploitation à l'étranger et à l'intérieur du pays afin de guider les survivants vers la guérison et la réadaptation.
L'image du leadership américain dans le monde a rebondi au cours des 6 premiers mois du mandat du président Joe Biden, après une baisse record au cours de la dernière année de l'administration du président Donald Trump. C'est ce que révèle une nouvelle enquête de Gallup menée dans près de 50 pays. Les explications de la chef du bureau de la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, le récit Abdourahmandia.
Alors qu'il a été proie à de faibles taux d'approbation au plan national ces dernières semaines, le président américain Joe Biden a reçu de bonnes nouvelles sur la scène mondiale. Selon un nouveau rapport Gallup, l'approbation du leadership américain est passée de 30% en 2020 à 49% en août 2021 dans 46 pays et territoires. Le saut est en partie motivé par le réengagement de l'administration Biden avec le monde. Julie Ray est rédactrice en chef du Desk Monde chez Gallup.
Dès que les premières heures et les premiers instants de l'administration Biden, le président avait rejoint l'accord de Paris et avait également pris du recul par rapport à la décision de Trump de se retirer de l'OMS. Donc je pense que ces gestes étaient des signes vraiment prometteurs que beaucoup d'alliés attendaient.
La cote de popularité de 49% pour les États-Unis correspondait au record atteint lors de la première année du premier mandat de Barack Obama en 2009. Le plus bas record, 30%, était sous le président Donald Trump et était probablement dû à son approche en matière de politique étrangère. Donald Trump.
Nous donnons vraiment et enfin la priorité à l'Amérique.
L'enquête de Gallup suggère que le message de Biden au monde a reçu une réponse plus favorable.
America is back.
L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour.
Mais le retrait chaotique d'Afghanistan et l'accord AUKUS de septembre pour fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire, annulant un accord antérieur avec la France, ont été vivement critiqués, même par les alliés des États-Unis. Daniel Pletka est spécialiste de la politique étrangère à l'American Enterprise Institute.
They feel like they were fed a line.
Ils ont l'impression d'avoir été floués. C'est une administration qui va redynamiser nos alliances. Nous nous tenons à l'OTAN. Nous nous soucions des autres. Nous nous soucions des droits de l'homme. Et puis, que s'est-il passé? Nous n'avons pas tenu nos promesses sur l'Afghanistan et sur l'accord avec l'Australie. Et cela va vraiment causer des problèmes.
Malgré l'amélioration de leur image, les États-Unis sont derrière l'Allemagne, classée premier, en particulier en Europe, en Asie et dans les Amériques.
Ein klares Bekenntnis zum Multilateralismus gezeigt haben, sei es im Bereich des Klima, aber eben auch.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.